Bonjour à tous. Merci de me recevoir et merci aux anciens pour cette invitation. C'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir partager la parole pour ce week-end pascal. Il y a quelques années en arrière, en 2013, dans la ville de Gweru, au Zimbabwe, la famille et les amis de Brighton Damazante, alors je ne sais pas si on voit, voilà, super. Un Sud-Africain de 34 ans qui souffrait d'une longue maladie et qui a été déclaré mort, se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage, alors que son corps reposait dans un cercueil qui était disposé en plein milieu d'une pièce chez lui. Les proches donc se présentaient les uns après les autres pour lui faire un dernier adieu. Et là, tout d'un coup, quelqu'un a vu le corps bouger. Panique générale, cris, évanouissement. Jusqu'à ce qu'un proche ait suffisamment de courage pour se rapprocher, retirer la couverture et réaliser qu'en fait, Brighton respirait. Il était bel et bien vivant. Alors du coup, ils ont rapidement appelé une ambulance. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital du coin où il a été placé sous assistance respiratoire pendant 2 jours. Et à son réveil, il a déclaré ne pas se souvenir de ce qui s'était passé, se rappelant seulement de s'être retrouvé à l'hôpital. Alors c'est une histoire vraie. Vous pourrez regarder, il y a eu des articles à ce sujet. Mais vous imaginez la tête des gens. Certains sont partis en courant, d'autres ont cru à un miracle. Mais une chose est sûre, personne ne s'attendait à un retour à la vie ce jour-là. Eh bien nous, ce matin, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est quelque chose qui s'est produit il y a 2000 ans, et cette fois, ce n'était pas une erreur de diagnostic, ce n'était pas un retour à la conscience, mais une victoire éclatante sur la mort. Parce que même si l'histoire de Brighton, elle est impressionnante, en fait, il a fini par mourir un jour. Alors que Jésus, lui, il est ressuscité pour toujours et cette résurrection, elle change tout. Et ce matin, donc, on va plonger ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Vous savez, c'est le récit où Marie de Magdala découvre le tombeau vide et elle est bouleversée, elle informe les disciples, Pierre et Jean, qui constatent à leur tour que le corps de Jésus a disparu. Et puis plus tard, Jésus apparaît à Marie de Magdala, puis aussi aux disciples. Et ce chapitre qu'on va lire ensemble, en fait, c'est une partie de l'événement central de toute la Bible. Parce que la résurrection, c'est l'accomplissement du plan divin. Tout l'Ancien Testament pointe vers le besoin d'un Rédempteur qui restaurera la relation entre Dieu et l'humanité. En fait, la résurrection, c'est l'événement qui valide toute la foi chrétienne. D'ailleurs, Paul nous le dit de façon très claire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 17. Tout à l'heure, quelqu'un, j'ai entendu, l'a lu. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » Donc en fait, avec d'autres mots, s'il n'y a pas de résurrection, la foi chrétienne s'effondre. Et en fait, ici, on est un petit peu là pour rien. Et dans le livre des Actes, après la Pentecôte, qu'est-ce que prêchent principalement les apôtres ? La résurrection de Jésus. C'est le cœur de leur message. Actes au chapitre 2, verset 32, Pierre nous dit « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Et Actes au chapitre 17, verset 31, Paul dit « Dieu a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant Jésus d'entre les morts. » Donc la résurrection, c'est la base de notre espérance. Alors oui, bien sûr, la croix est essentielle, mais sans la résurrection, elle n'aurait pas d'effet. Et si Jésus est ressuscité, alors nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Toute la Bible pointe vers cette victoire de Christ à la Pâque. Et c'est cet événement qu'on va voir ensemble ce matin. J'espère que ça vous motive. Mais d'abord, quelques éléments de contexte pour bien comprendre ce qui s'est passé. Si on essaie de se mettre dans les chaussures des disciples, là, c'est un choc absolu. Là, les disciples sont effondrés. 3 jours plus tôt, Jésus, avec qui ils avaient passé autant de temps ces dernières années, et pour lequel ils ont tout quitté, a été crucifié dans des conditions terribles. Ils ont assisté pour certains, entendu parler pour d'autres, de son arrestation brutale, des coups, des moqueries, et de sa mort sur la croix. Pour ceux qui ont vu le film « La Passion du Christ », vous avez un petit aperçu de ce qui s'est passé. Parce que les disciples, à la base, en fait, ils croyaient en un Messie glorieux qui établirait le règne de Dieu. Sauf que là, il est mort. Et ils avaient tout quitté pour le suivre. Famille, métier, sécurité. Et là, maintenant, ils sont perdus et ils savent plus du tout quoi faire. Et puis, ils ont peur. les autorités juives et romaines pourraient vouloir les arrêter à leur tour. La preuve ? Ils se cachent. Ils sont dans une maison, verrouillés, terrifiés, en plein doute, comme on peut lire un petit peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 19, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Donc au niveau politique et religieux, il y a vraiment une tension qui est explosive. C'est l'époque des Gilets jaunes, puissance 10. On est à Jérusalem, en pleine fête de la Pâque juive, la ville est remplie de pèlerins venus de partout. D'un côté, on a les Romains, qui contrôlent la Judée d'une main de fer. Tout soulèvement est écrasé. Et de l'autre, on a les chefs religieux qui pensaient avoir réglé le problème en faisant tuer Jésus. Sauf qu'ils ne sont pas très sereins, puisqu'ils craignaient encore un coup des disciples. Raison pour laquelle ils ont demandé à Pilate de sceller et surveiller le tombeau pour éviter qu'on vole le corps et qu'on parle de résurrection. Pour résumer, c'est chaud. Et Jean 20, ça ne raconte pas juste un miracle, en fait, ça raconte un basculement total. D'une défaite apparente, on passe à une victoire éclatante. D'un groupe de disciples qui étaient apeurés, on passe à des témoins devenus courageux. D'une histoire qui semblait s'arrêter, on passe à une histoire encore plus belle, qui, elle, ne fait que commencer. Et je vais donc vous partager le plan de ce qu'on va voir ensemble ce matin, à savoir donc les 18 premiers versets de Jean chapitre 20, que j'ai découpé en quatre parties. Et on commence tout de suite avec cette première partie. Alors, évidemment, ceux qui veulent lire dans vos Bibles, c'est toujours intéressant des fois de comparer les versions, mais ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez tout à fait prendre ici. À partir du verset 1. « Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Donc on lit là qu'il fait assez sombre encore. Mais ce n'est pas seulement l'aube qui était sombre, c'est aussi le cœur de Magdala, sa foi, son espérance, parce que tout semblait s'être effondré pour elle. 3 jours plus tôt, elle a vu son Messie mourir. Et là, même son corps a disparu. Et c'est là que commence cette scène, par une femme seule, en deuil. Mais pourquoi elle ? Pourquoi Jean ne mentionne que Marie, alors que les autres évangiles synoptiques parlent de plusieurs femmes ? Dans Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, d'autres femmes sont mentionnées. Alors pourquoi, lui, Jean ne s'attarde que sur Marie ? Alors certains théologiens pensent que c'est simplement parce qu'elle était partie avant les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est elle qui joue un rôle important, et en fait, l'auteur se concentre simplement sur elle. Et cette Marie de Magdala, eh bien, il semblait que ce matin-là, elle n'arrivait pas vraiment à dormir. Elle tournait peut-être dans son lit, elle n'arrivait pas à fermer les yeux, et elle ne tenait plus en place. Et du coup, elle est sortie, à l'aube, portée par l'amour, mais écrasée par la douleur. Elle ne venait pas chercher la vie ce matin-là. Elle venait embaumer un corps. Et c'est ça l'ironie du texte. Parce que Marie pense trouver un cadavre, et en fait, elle va découvrir la vie. Mais à ce moment précis, elle ne comprend rien. Elle voit la pierre rouler, elle panique. Pour elle, c'est juste un drame de plus, une injustice de trop. Elle n'imagine pas une seconde ce qui est en train de se passer. Et pourtant, c'est précisément ce moment de désespoir apparent qui marque le début du plus grand renversement de l'histoire. Et ce n'est pas anodin que ce soit Marie, cette femme qui était autrefois habitée par 7 démons. Qui se tiennent là, en premier. C'était pas un apôtre, c'était pas un chef, c'était pas un homme, c'était pas la plus pure aux yeux du monde. Elle était probablement pas non plus la plus respectée, ni même la plus fréquentable. Son passé peut-être laissait des traces. Peut-être même que les gens chuchotaient encore dans son dos. Mais c'est elle que Jésus a choisie. Et c'est ce détail, cette femme, premier témoin, qui rend le témoignage de la résurrection encore plus crédible. Parce que dans le judaïsme du 1er siècle, le témoignage d'une femme, en fait, il n'avait aucun poids. Si les évangélistes avaient voulu inventer une histoire, ils auraient choisi des hommes, des apôtres, des autorités. Mais non. Dieu choisit Marie de Magdala. Parce que Dieu aime confondre la sagesse des hommes. Parce qu'il renverse les normes. Parce qu'il choisit des personnes improbables pour porter des vérités éternelles. Et là, Marie arrive au tombeau dans l'obscurité, nerveuse. Mais indépendamment du fait qu'elle aime réellement et profondément Jésus, elle s'attend à un Jésus mort, à un petit Jésus, un Jésus que son esprit peut comprendre, que son cerveau humain peut imaginer. Parce que pour elle, un corps mort, ça reste mort. Alors oui, bien sûr qu'elle aimait cet enseignant merveilleux, ce rabbi plein d'amour, ce faiseur de miracles, mais elle ne cherche pas le Dieu de l'univers qui a tout transformé. Jésus avait pourtant dit qu'il était la lumière du monde, qu'il serait le juge qui devait revenir pour juger le monde. Il a dit qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter. Elle a entendu tout ça. Mais son cerveau, il est formaté par son éducation juive, par toutes ces limitations qu'elle s'est forgées au fil du temps. Alors elle a été élevée dans une culture où le Messie devait triompher, pas mourir. Elle a entendu parler de résurrection, mais comme quelque chose de flou, de lointain, théorique. Marie est venue rendre hommage à un mort, pas rencontrer un ressuscité. Pourquoi ? Parce que comme nous, elle est prisonnière de ses catégories mentales. Nous avons tous des barrières psychologiques, des murs invisibles. Nous aussi, nous projetons nos limites sur Dieu, nos expériences, notre culture, nos blessures, notre logique humaine. Tout ça crée un cadre qui filtre notre perception de la vérité. Et parfois même, face à une vérité éclatante, on ne voit rien. Parce que notre cœur n'est pas prêt, parce que notre foi a été formatée pour un petit Dieu. Nous ne voyons que ce que nous sommes préparés à voir. Nos expériences, nos traumatismes, notre culture forment un cadre qui conditionne notre façon de penser. Parce que Jésus doit se révéler à nous. Parce que là, pour Marie, elle voit que le tombeau vide. Et sa première réaction, on a volé le corps. Et du coup, elle court prévenir les disciples. Et ça nous amène à cette deuxième partie, les indices révélateurs. Et on lit à partir du verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Et donc là, Marie va voir les disciples, qui, il faut quand même le rappeler, sont en deuil depuis 3 jours. Et là, on vient leur dire que le tombeau est ouvert. Alors qu'est-ce qu'ils imaginent, eux, que c'est un canular ? C'est un vol de cadavres ? Et là, on lit un petit peu plus loin, au verset 4, « Ils couraient tous deux ensemble, et l'autre disciple courut en avant, plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. » Alors moi, ce petit passage, ça me fait sourire à chaque fois. J'imagine assez facilement Pierre qui retrouve Jean au ciel et qui lui dit « Hé, franchement, t'étais obligé d'écrire noir sur blanc que c'est toi qui as couru le premier et qui est arrivé en premier ?» Et puis là, il y a Jean qui doit le regarder probablement avec un petit sourire en coin. « Quoi ? Ça aussi, tu vas le nier ?» Plus sérieusement, je me demande pourquoi c'était utile de le mentionner. En plus, Jean, qui se fait quand même appeler le disciple que Jésus aimait, maintenant qu'il dit qu'il court plus vite que l'autre. Alors j'ai un petit peu creusé ce point de détail, mais en fait, il semblerait que Jean, en écrivant son évangile, il veut rapporter simplement un témoignage précis et fidèle. Et du coup, il insiste sur des faits, y compris sur des détails concrets. Et ça renforce le caractère historique du récit. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'après avoir couru plus vite, en fait, il attend Pierre avant de rentrer dans le tombeau au verset 5. Alors peut-être qu'il avait aussi un peu peur de rentrer, mais ça montre aussi probablement qu'il reconnaît l'autorité de Pierre parmi les apôtres et qu'il ne cherche pas à se mettre en avant. Parce que s'il voulait se glorifier, il aurait peut-être juste dû rester sur le fait qu'il est arrivé en premier au tombeau. Et on lit donc, à partir du verset 7, un autre détail qui est très intéressant. Le linge qui recouvrait le corps, il est plié. Qu'est-ce que ça veut dire ? À la différence de Lazare, qui, quand il est sorti du tombeau, était encore sorti enveloppé de toutes ses bandelettes, Jésus lui laisse ses linges pliés soigneusement, sur un côté. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de vol de corps. Parce que si les voleurs étaient vraiment venus voler le corps, ils n'auraient jamais pris le temps de plier soigneusement les linges. Ça veut dire que ça ne s'est pas fait dans la précipitation. Parce que Jésus est ressuscité avec autorité et paix, pas dans le chaos. Et ça veut aussi dire qu'il y a vraiment eu cette notion d'intention, d'ordre et de contrôle, pas d'accident ou d'improvisation. Et puis, il semblerait qu'il y ait une coutume juive de l'époque qui disait que lorsqu'un hôte quittait la table et qu'il laissait sa serviette froissée, en fait, ça voulait dire que pour lui, le repas était terminé. Alors que s'il repliait soigneusement sa serviette, ça voulait dire qu'il allait revenir. Et peut-être que c'est un clin d'œil de Jésus. Je n'ai pas disparu. Je reviendrai. Et on continue la lecture au verset 8. Alors donc, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, encore une fois, entra aussi, il vit et il crut. Ça, c'est un verset qui est puissant. Jean ne voit pas Jésus. Il voit un tombeau vide, des linges, mais ça suffit pour croire. Beaucoup de gens n'acceptent de croire que lorsqu'ils voient Jésus. Mais Jean, lui, il croit en voyant les indices de sa présence. Parce que parfois, Dieu, il nous parle simplement au travers de quelque chose de banal, comme un linge plié. Il y a une différence entre voir pour comprendre et voir pour croire. Jean n'a pas vu Jésus vivant, mais il a vu suffisamment pour que sa foi devienne vivante. Et on lit au verset suivant qu'il a cru, mais pas encore tout compris. C'est une foi qui est incomplète, mais sincère. Vous ne trouvez pas que ça libère quand on y pense ? On peut croire sans tout comprendre. C'est un petit peu comme un enfant qui suit son père dans un voyage et puis qui rentre dans un avion. Il ne sait absolument pas comment fonctionne l'avion, mais il a confiance à son père. Et c'est un appel envers tous ceux qui doutent, tous ceux qui avancent lentement, ceux qui attendent de tout comprendre avant de croire. La foi commence par la confiance. Tenez, par exemple, si je vous dis que là, j'ai mis ma main dans ma poche et j'ai pris une pièce de 2 euros. Vous ne l'avez pas vue, vous ne l'avez pas touchée, mais pourtant, certains d'entre vous me croient. Exactement. Parce que vous me faites confiance. C'est ça la foi. Maintenant, si j'ouvre ma main et que je prends cette pièce de 2 euros, et là vous la voyez tous, c'est plus de la foi, c'est un constat. Vous n'avez plus besoin de me faire confiance pour me croire. Et en fait, la foi, c'est pas voir pour croire, c'est croire avant de voir. C'est pas une certitude mathématique, c'est une confiance placée. Et ce n'est pas la force de ta foi qui te sauve, c'est la fiabilité de celui en qui tu mets ta confiance. Et puis les disciples s'en retournèrent chez eux. Parfois, il y a un temps entre la révélation et la mission, pendant lequel Dieu agit dans le silence. Il bâtit une foi intérieure avant de produire un fruit extérieur. Un petit peu comme une graine qui croît sous terre avant de pointer le bout de sa tige au grand jour. Dieu est en train d'agir même quand on croit que tout est fini. Et ça nous amène à notre troisième partie. On lit à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître ». Là, au verset 11, Marie, elle est là, brisée, à pleurer devant un tombeau vide. Elle croit avoir perdu son Seigneur. Elle pense même que son corps a disparu. Son amour pour Jésus est sincère, mais elle est encore aveuglée par la douleur. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, elle pleure devant une victoire alors qu'elle croit vivre une perte. Et c'est comme nous parfois. Dieu est en train de faire une œuvre magnifique, une œuvre glorieuse, alors que nous, on voit qu'un vide, une absence. Parce que même quand tu crois que Dieu est absent et que tu regardes le vide, en fait, ce n'est pas l'absence de Dieu que tu vois, c'est la trace de sa victoire. Et puis au verset 12, elle voit deux anges assis aux extrémités de l'endroit où reposait le corps de Jésus, des messagers du ciel, rien que ça. Et pourtant, ça ne la bouleverse même pas. Parce qu'elle cherche Jésus, pas un substitut céleste. Son amour, il est personnel, concret, incarné. Alors, certains commentateurs bibliques voient aussi ici un écho symbolique à l'Arche de l'Alliance. Vous savez, dans le Saint des Saints, il y avait deux chérubins qui étaient placés de part et d'autre du propitiatoire, qui était ce couvercle sacré sur lequel le sang était versé pour l'expiation des péchés. On trouve ces passages-là dans Lévitique, au chapitre 16. Et ici, dans le tombeau vide, Jésus décrit deux anges assis, l'un à la tête et l'autre au pied, là où avait reposé le corps de Jésus. Et ces commentateurs évoquent, probablement, une nouvelle réalité spirituelle. L'expiation n'est plus liée à un objet du temple, mais à l'œuvre de Jésus accomplie une fois pour toutes. Le sang a été versé à la croix, et ce tombeau vide, encadré d'anges, annonce « tout est accompli ». La présence des anges souligne donc la sainteté de l'instant et la gloire du salut désormais offerte. Je trouvais que c'était intéressant quand même comme parallèle que j'ai pu voir de ces commentateurs. Et là, les anges lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Il faut avouer quand même que poser cette question dans un cimetière à quelqu'un qui pleure, c'est un peu déplacé. Je ne sais pas si vous, demain, vous vous trouvez dans un cimetière et que vous voyez quelqu'un en train de pleurer, est-ce que vous lui poseriez la question « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Pourtant, c'est quand même la question que les anges lui posent. Et puis, Jésus arrive. Et c'est intéressant de voir que malgré tout l'amour et l'admiration que Marie avait pour Jésus, elle ne l'aurait jamais trouvé si lui ne l'avait pas trouvé d'abord. Parce que ce n'est pas nous qui trouvons Jésus, c'est lui qui nous trouve. Humainement parlant, en fait, la foi, elle est impossible. Elle ne devient possible que si Jésus-Christ se révèle à nous, que s'il ouvre les yeux de notre cœur. Et on continue au verset 14. Jésus est là, mais elle ne le reconnaît pas. C'est incroyable. Jésus, il est juste devant elle, mais ses larmes, sa tristesse et ses pensées la bloquent. Elle pense que c'est le jardinier. Ce n'est pas qu'un détail amusant. Parce que quelque part, en fait, elle ne se trompe pas tant que ça. Adam, dans Genèse au chapitre 2, le premier homme avait reçu la mission de garder un jardin. D'une certaine manière, c'était un jardinier. Mais voici Jésus, le dernier Adam, de 1 Corinthiens 15, verset 45, qui se trouve lui aussi là dans un jardin. Non plus pour cultiver la terre, mais pour restaurer l'humanité. Il est le véritable jardinier du cœur humain. Celui qui relève ce qui était tombé. Celui qui fait fleurir la vie là où tout semblait perdu. Et combien de fois Jésus est là, tout près, mais on ne le reconnaît pas. On pense que c'est un hasard, des circonstances, peut-être un jardinier quelconque, alors que c'est Christ ressuscité. Marie voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Pourquoi ? Parce que dans son cadre mental, Jésus vivant, ce n'est pas une option. Et nous aussi, on a nos barrières mentales. Dieu nous parle, mais on n'entend que ce que nous sommes prêts à entendre. On lit la Bible, mais on y projette que nos propres attentes. On prie, mais parfois, en réalité, on n'attend même pas de réponse. Et Jésus avait pourtant tout dit à Marie. « Je suis la lumière du monde. » Et elle marche dans l'obscurité. « Je serai livrée et crucifiée, et puis je ressusciterai. » Mais elle, elle cherche un cadavre. Elle croyait, mais avec des limites humaines. Et nous aussi, souvent, on limite Jésus à ce que nous pouvons comprendre, prévoir, contrôler. Et quand Jésus lui pose la question « Mais que cherches-tu ?» Ce n'est pas juste une question anodine. En réalité, c'est une question qui est fondamentale. Jésus sait très bien qui elle cherche. Il veut l'amener à prendre conscience de son désir profond. Quel Jésus cherchons-nous ce matin ? Un Jésus qui réconforte, mais qui ne bouleverse pas ? Un Jésus qui pardonne, mais qui ne transforme pas ? Un Jésus qui bénit, mais qui ne défie pas nos conceptions ? Et là, au verset 16, tout d'un coup, tout bascule. Il suffit d'un mot, un prénom, Marie. Ce n'est pas un long discours, ce n'est pas un miracle, juste l'appel du maître. Et ce n'est pas non plus seulement un prénom, c'est aussi l'accomplissement de Jean, chapitre 10, verset 3. Il appelle ses brebis par leur nom. Je vous ai mis aussi d'autres références sur cette notion-là d'être appelé par son nom. Et elle, elle le reconnaît immédiatement. Son cœur reconnaît ce que son cerveau refusait de voir. Elle croyait voir un jardinier, mais en un instant, elle comprend, c'est son Seigneur vivant. Et elle l'appelle Rabouni. Ce seul mot, qui était tellement important, prononcé dans cette situation-là, ça a paru important à l'auteur au point qu'il le garde dans sa version originale. Nous avons besoin que Jésus nous appelle, nous aussi, qu'il brise nos cadres mentaux. Et on pourrait faire nôtre ce même appel que Jésus fait à Marie, parce que Jésus connaît ton nom. Il ne s'adresse pas à toi comme parmi une millier de foules de chrétiens, mais il t'appelle personnellement. Il sait exactement quand et comment t'appeler, pour que tu ouvres enfin les yeux. Et comme Marie, tu peux pleurer, tu peux douter, tu peux même ne pas le reconnaître, mais quand Jésus dit ton nom, ça change. Et ça nous emmène vers cette quatrième et dernière partie, l'envoi. Alors pour cette partie-là, est-ce que vous pouvez tous, s'il vous plaît, juste prendre vos bibles, si vous en avez une, sur le smartphone? Et je vous explique pourquoi, c'est parce que j'aimerais bien qu'on puisse comparer des versions. C'est-à-dire qu'il y a deux versions principales qui se recoupent, et il y a une petite subtilité. Donc si vous pouvez prendre vos bibles, donc c'est Jean chapitre 20, et c'est les versets 17 et 18. Moi, la version qui est ici, c'est la seconde 21, si jamais. Donc je lis à partir du verset 17. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Lesquels d'entre vous ont eu cette version-là où au début on lit « Ne me retiens pas ». Levez la main. Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu la version « Ne me touche pas » ? Ok, donc on est quand même assez partagé. Moi, j'ai commencé, quand j'ai pris ce texte-là, à l'étudier avec la version « Ne me touche pas » et je ne comprenais pas du tout. Je me suis dit « Mais c'est quoi ? C'est une interdiction physique ? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de le toucher ? Pourquoi elle ?» Et en fait, le verbe grec « aptomai », ça signifie saisir, s'accrocher plus que simplement toucher. Donc en fait, effectivement, il y a cette notion de toucher, mais ça peut aller plus loin que ça. Donc ce verbe-là, il est... Et c'est pour ça que je trouve que cette version de second 21, elle est intéressante, parce que ne me retiens pas, elle a une petite dimension supplémentaire. On peut facilement imaginer la scène. Marie, elle est là, elle pleure de toute son âme la mort de son Seigneur, et elle vient de le retrouver à l'instant devant elle, et en plus qui lui dit « Marie ». Et là, d'un coup, elle se jette à son cou. Et puis elle n'a plus envie de le lâcher, peut-être qu'elle doit se dire même « Écoute, je t'ai laissé partir une fois, plus jamais je te laisserai partir, elle le sait, elle ne veut plus le lâcher. » Et du coup, ce que Jésus pourrait vouloir lui dire, c'est pas « t'as pas le droit de me toucher, mais ne t'accroche pas à moi comme si j'étais revenu pour rester ici physiquement. » Parce qu'un petit peu plus tard, dans les versets qui suivent ce passage qu'on prend là, on voit que Thomas, en fait, Jésus lui dit « Vas-y, mets tes doigts là, touche. » Donc ce n'est pas une règle qui est pour tous. Mais à Marie, en fait, Jésus lui dit « Tu m'as retrouvé, mais ne me retiens pas. Ma mission n'est pas encore accomplie, je monte vers le Père. Tu ne peux pas me garder pour toi toute seule. » Et certains veulent garder Jésus pour eux seuls dans l'émotion d'une rencontre. Mais Jésus dit « Ne t'accroche pas à l'expérience passée. Lève-toi et va dire que je suis vivant pour le monde. » Et nous, à quoi est-ce qu'on s'accroche ? À une vision de Dieu trop petite ? À une foi intellectuelle, mais pas vivante ? À des expériences passées, au lieu d'attendre de nouvelles rencontres avec Christ ? Pâques nous défie ce matin. Voulons-nous un Jésus qu'on arrive à mettre dans un cadre bien défini ? Ou bien un Jésus qui dépasse nos attentes ? Et un petit peu plus loin, on voit un verset qui est magnifique, c'est la naissance d'une nouvelle famille. « Va vers mes frères. » C'est la première fois dans l'évangile de Jean que Jésus appelle ses disciples mes frères. On lit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il ne dit plus mes serviteurs, il ne dit plus mes disciples, il dit mes frères, votre Père. En fait, c'est la conséquence directe de la résurrection. En Christ, nous devenons enfants de Dieu, membres d'une même famille. Et ça fait écho à Romains au chapitre 8, verset 29. Il est le premier-né d'une multitude de frères. Parce que la croix, elle nous sauve, mais la résurrection nous adopte. Nous ne sommes plus des disciples de loin. Nous sommes de la maison, de la famille, des frères de Jésus. Et là, Marie devient la première messagère de cette bonne nouvelle. Marie, celle qui était restée jusqu'au bout. Celle qui avait même regardé la veille où est-ce qu'on mettait le corps. Celle qui aimait profondément Jésus. Et c'est souvent dans cet amour fidèle que Dieu se révèle. Et pourtant, ça n'avait pas commencé dans la joie. Ça a commencé dans des pleurs, dans le manque, dans l'incompréhension. Mais Jésus ne la laisse pas là. Il vient à elle dans le jardin et puis il l'appelle par son nom. Et peut-être que toi aussi, ce matin, tu es devant un vide. Tu cherches des réponses, mais tu vois rien. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu espères, mais tu ne comprends pas ce que Dieu a fait. Et si Dieu, si Jésus était juste là, tout près, et s'il te regardait avec des yeux pleins d'amour, et il pourrait, et là vous pouvez mettre votre prénom, moi je mets le mien, Matthieu, c'est moi, je suis là, et je t'aime. On cherche notre identité dans mille choses, et on découvre vraiment qui on est que quand on réalise que quelqu'un qu'on aime en fait nous aime en retour. Et ce quelqu'un, c'est le Dieu de l'univers. Et il t'appelle par ton nom. Et il veut que tu reconnaisses, non pas comme une idée, comme une figure religieuse, mais comme ton maître, ton rabouni. Et pour finir, je voudrais juste une dernière fois vous repartager ce plan qu'on a vu ensemble. Donc on a vu première partie, apparente défaite, deuxième partie, les indices révélateurs, troisième partie, message personnel, et quatrième partie, envoi. Et maintenant, un petit moyen mémotechnique de se rappeler pour que vous ayez un reste de ce qu'on a pu voir ce matin ensemble. On va juste garder la première lettre de chacun de ces paragraphes. A pour apparente défaite. Marie voit une fin, mais Dieu prépare un commencement. I pour indice révélateur. Jean n'a pas vu Jésus ressuscité, mais il a cru. On peut croire sans tout comprendre. M pour message personnel. Jésus t'appelle par ton nom. Et E pour envoi, va dire que je suis vivant, A-I-M-E, M. En fait, la Pâque, c'est une histoire d'amour. Des fois, on a l'impression que ce qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on n'aime pas Dieu assez. Mais en réalité, le vrai blocage, c'est qu'on ne réalise pas à quel point lui nous aime. Parce que si on saisissait ne serait-ce qu'un instant la hauteur, la profondeur, la largeur de son amour, en fait, on tomberait à genoux. On ne pourrait rien faire d'autre que de l'aimer en retour. On l'a entendu mille fois. Dieu est amour. Mais quand cet amour devient plus qu'un concept, quand tu le ressens, quand tu le comprends intérieurement, ça te transforme. Plus rien n'est pareil. Et on n'agit pas par devoir, mais par réponse. On n'obéit plus par peur, mais par amour. Et voici la vérité bouleversante. C'est que Dieu t'aime quand tu le ressens. Mais il t'aime autant quand tu ne le ressens pas. Dieu t'aime quand tu fais ce qui est bien, mais il t'aime autant quand tu tombes. Parce que son amour n'est pas basé sur qui tu es, mais sur qui il est lui, et il ne change pas. Son amour ne repose pas sur ce que tu as fait, mais sur ce que Christ a accompli à la croix. Les bras écartelés, les mains clouées, le sang qui coule. Et il ne te dit pas juste « je t'aime », il te dit « voilà jusqu'où je suis prêt à aller pour toi ». Voici la preuve de mon amour. Ce n'est pas juste un sentiment passager, c'est une alliance scellée dans mon sang. Et voici la vérité que l'ennemi veut te cacher, mais que l'Évangile proclame. Tu ne peux rien faire pour que Dieu ne t'aime plus. Tu ne peux rien faire pour qu'il t'aime moins. Son amour est parfait, constant, éternel, et il ne dépend pas de toi, mais il est là pour toi. Et quand tu vis à la lumière de cet amour, en fait, tu ne vis plus dans la peur ni dans la honte, tu es libre. libre de marcher avec Dieu, libre d'aimer à ton tour, libre de vivre pleinement. En fait, la croix, c'est le paiement pour notre salut parce que Jésus a payé notre dette. Mais la résurrection, c'est le reçu. La preuve que Dieu a accepté ce paiement. Donc en fait, à Pâques, on ne célèbre pas seulement le prix payé, on célèbre aussi que le paiement a été validé. Et je voudrais terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, merci pour cette Pâque. Merci parce que tu as pris notre péché. Tu es mort pour nous. Mais Seigneur, tu es ressuscité. Et heureusement que tu es ressuscité, parce que sinon, on aurait beau se réunir, ça n'aurait aucun sens. Et Seigneur, aide-nous à briser ces barrières mentales qui sont dans notre esprit, qui nous empêchent de voir quel Dieu grand tu es, qui nous empêchent de voir quelle est cette preuve d'amour que tu as eue envers nous. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que c'est un amour pour lequel tu es allé jusqu'au bout. Et aide-nous à t'aimer en retour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.